Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Hey, salut tout le monde, c'est Mathieu. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du Remdesivir, qui est fait par la compagnie Gilead, qui vient d'obtenir son autorisation d'utilisation d'urgence le 1er mai 2020 dernier par la FDA. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que le Remdesivir? Dans le fond, c'est un antiviral, c'est un analogue de la nucléotide adénosine qui va inhiber l'ARN polymérase virale. Quand même assez un large spectre. Il va être bon contre les coronavirus, l'Ebola, Nipah, RSV, etc. Là, les filovirus aussi, les paramyxovirus, les pneumovirus, les le coronavirus qu'on a, on a parlé, les coronavirus plutôt. Donc, on sait que c'est bon contre plusieurs virus, mais comment qu'on dose ça? Dans l'information qui a été mise par la FDA, c'est quand même intéressant. Si vous faites plus que 40 kg, que vous soyez pédiatrique ou adulte, vous êtes intubé et ou avez besoin d'ECMO. Okay, on vous donne 200 mg IV pour une dose en 30 à 120 minutes pour le jour 1. Après ça, pour 9 jours subséquents, donc un total de 10 jours, on va donner 100 mg IV. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes malade, okay, mais que vous n'avez pas besoin d'être intubé ou d'ECMO, ben, on vous donne 200 comme dose de charge pour le jour 1. Et du jour 2 à 5, on va donner 100 mg. Donc, si vous êtes vraiment malade, vous donnez 10 jours. Si vous êtes un peu malade, vous donnez 5 jours de traitement. Mais vous pourriez quand même aller jusqu'à 10 jours. Ça, d'où ça vient? Ça vient de données de la compagnie qui sont à publier, qui sont à venir. Ces données-là nous disaient que la différence entre 5 et 10 jours n'était pas très importante. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette petite différence. Donc, si vous êtes très malade, vous pourriez aller jusqu'à 10 jours. Et bref, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'un diagnostic officiel de COVID-19. Une suspicion forte pour laquelle, bon, les tests sont en cours, sont assez pour le partir. Faut-tu l'ajuster, cet antiviral-là? Selon la monographie, oui, si vous avez une fonction rénale qui est en bas de 30 ml minutes. L'ajustement est très simple. Si vous avez en bas de 30 ml minutes, eh bien, vous ne pouvez pas l'utiliser. Mais si vous êtes au-dessus de 30 ml minutes, eh bien, il n'y a pas besoin d'ajustement. Quand même facile à retenir, quand même. Il faut suivre tout le panel, naturellement, de la fonction rénale, mais aussi du bilan hépatique. Parce que ce qu'on s'est rendu compte dans les études, il y a quand même un petit impact au niveau du bilan hépatique. Donc, si les ALT sont plus que 5 fois la limite supérieure, ben il faudrait arrêter ou ne pas débuter. C'est selon. Puis ça, les ALT risquent vraiment de monter, hein, parce que chez des sujets sains, les ALT ont monté jusqu'à 10 fois. Puis chez des patients COVID, ils ont remarqué que ça pourrait monter jusqu'à 20 fois la limite supérieure. Donc, c'est quand même assez important à suivre. Pour ce qui est des interactions avec la molécule, ben, comme elle est quand même assez neuve, on n'en a pas de répertorié. Mais on sait que c'est un métaboliseur des cytochromes, CYP, là, pour cytochrome. 2C8, 2D6, 3A4, ainsi que le OAP1B1 et la PGP. Si vous réussissez à toutes les mettre au Scrabble, d'après moi, vous allez avoir quand même pas mal de points. Puis c'est un léger inhibiteur du 3A4 également, ainsi que OATP1B1, 1B3, BSEP, MRP4, NTCP. Ah, ça, eux autres, je ne les connaissais pas. Mais naturellement, comme c'est pas très testé, on n'est pas trop sûr. Donc, mais vu que c'est un inhibiteur du 3A4 et un substrat du 3A4, donc c'est probablement une molécule avec une haute affinité pour le cytochrome. Donc, tout ce qui passe par le 3A4, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une légère interaction, mais est-ce que c'est cliniquement significatif? Pour l'instant, on ne sait pas. Fait que juste faire attention quand vous combinez ça. Puis un petit peu de pratico-pratique d'administration. Ben, vous diluez ça dans du NS et vous administrez sur 30 à 120 minutes. Donc, c'est un peu la fin là, de cette portion infopub qui n'est pas commanditée, soit dit en passant. Je pense que là, ce qui va vraiment être intéressant, c'est de regarder les données qui ont amené la FDA à autoriser cette molécule. Dans le fond, il y a une première grosse étude randomisée contrôlée à double aveugle contre placebo, qui était multicentrique, là, qui était en Chine. L'étude de Wang, qui est parue dans Lancet dernièrement. Fait qu'ils ont randomisé un ratio de 2 pour 1 pour ce qui est du remdesivir. Donc, ils ont eu 158 patients remdesivir contre 79 pour le placebo. Ils ont quand même permis l'utilisation concomitante là, de lopinavir, ritonavir, interféron et corticostéroïdes. Fait que dans le fond, tout ce qu'ils ont voulu regarder, c'est le temps que ça a pris pour une amélioration clinique jusqu'au jour 28. Et par amélioration clinique, on voulait dire une diminution de deux niveaux sur une échelle de 6 du statut clinique ou s'il y avait congé en vie de l'hôpital. Fait que l'échelle, dans le fond, est vraiment simple. 6, t'es mort. 5, t'es encore à l'hôpital sur ECMO avec intubation. 4, ben, t'es sur ventilation non-invasive. 3, ben, t'es à l'hôpital toujours, t'as besoin d'O2. Le niveau 2, t'as besoin de. T'es encore à l'hôpital, mais t'as plus besoin d'O2. Et il y a le niveau 1 qui est dans le fond, t'as quitté l'hôpital. Ça, ce niveau-là, selon certaines études, il est sous-divisé en deux. Donc, t'es à la maison avec de l'O2, puis t'es à la maison, ça va vraiment bien. Fait que des fois, il faut garder ça en tête là, quand on compare les études. Fait que bref, tout ça, c'est bien beau. Les patients qui ont eu, ben, c'est des patients positifs au COVID-19, au PCR, avec une pneumonie à la radiographie, avec une SAT qui était vraiment en bas de 94 à l'air ambiant ou un ratio P sur F en bas de 300. Et, super important, fallait que les symptômes soient débutés moins de 12 jours. Quelques critères d'exclusion, dont la cirrhose hépatique, hein, parce que, comme je vous ai mentionné un peu plus tôt, les ALT peuvent monter vraiment assez important, la fonction rénale. Et ça aussi, c'est vraiment intéressant. Tous les patients qui étaient sur hémodialyse ben, ou CVVH, donc tout ce qui est thérapie de remplacement rénal, même la dialyse péritonale, était exclu. Donc, peut-être qu'il y a de la cinétique qui pourrait avoir éventuellement des données, mais pour l'instant, on va s'abstenir. Fait que bref, c'est des patients un peu comme on a là, qui sont malades, mais qui sont pas en défaillance d'organes multiples. Fait que ça a donné des groupes assez comparables. Faut quand même noter que dans le groupe remdesivir, il y avait un petit peu plus de patients HTA, diabétiques ou maladies coronariennes, qui n'étaient pas significatives nécessairement, mais ça aurait pu jouer légèrement en défaveur du remdesivir. Alors que le groupe contrôle était symptomatique depuis moins de 10 jours quand ils ont commencé l'étude. Fait que ce qui pourrait nous faire poser la question, est-ce que le groupe remdesivir aurait reçu le traitement un peu plus tard dans l'évolution clinique? Donc, est-ce qu'on aurait raté un peu cette fenêtre thérapeutique? Parce que, dans le fond, il faut se rappeler que le remdesivir, hein, la prémisse un peu derrière ça, c'est que ça pourrait... Mais la prémisse, c'est que le remdesivir est un puissant antiviral, donc ça pourrait diminuer énormément la charge virale, ce qui pourrait diminuer la réaction inflammatoire, le stress oxydatif et empêcher un peu ce cytokine storm. Donc, si on le donne un peu plus tard, peut-être que l'effet va être plus mitigé. Si on regarde les résultats de l'étude WANG, ben, dans le fond, il n'y a pas de différence sur l'issue primaire qui était, dans le fond, l'amélioration clinique. Okay? Les deux courbes se suivent vraiment de façon, c'est plate à dire, mais importante. Ils ont quand même, comme ils ont vu ben, que ça ne changeait pas grand-chose, ils ont fait des sous-analyses un petit peu, puis après ça, ils ont regardé en bas de 10 jours du début des symptômes, ben là, il n'y avait toujours pas d'impact significatif du remdesivir, mais ils ont vu que numériquement, tu diminuais de 5 jours le temps médian là, pour l'amélioration clinique, mais sans vraiment d'autres impacts. Pour ce qui est de la sécurité, ce qui est intéressant, c'est bon, ben, il n'y a pas eu plus d'effets secondaires ni dans l'un ni dans l'autre. C'est sûr que le remdesivir bon, aurait causé plus de constipation. Bon, ça se manage. L'hypoalbuminémie, l'hypocolanémie, des problèmes de plaquettes, mais surtout une augmentation de la bilirubine. Parce qu'on se souvient qu'il faut, y a l'air d'avoir un truc un peu plus hépatique. Et ce qui est à noter, il y a une plus grande proportion du groupe remdesivir qui ont arrêté. Là, on parle de 12% du groupe remdesivir versus 5% du groupe placebo qui ont arrêté prématurément l'étude à cause d'effets secondaires qui étaient principalement gastro-intestinales, mais aussi à cause de l'augmentation de la bilirubine et des ALT. Fait que ça, c'est quand même important. Donc bref, c'est une étude randomisée contrôlée contre placebo qui était bien faite avec des analyses en intention de traiter. Donc, mais c'est sûr que le nombre de patients était quand même assez faible. Ça, c'est dû aussi, entre autres, parce que plus l'étude avançait dans le temps, plus la Chine a pris des mesures de distanciation sociale et de confinement, ce qui fait que ben, ça a diminué énormément le bassin de patients. Donc, c'est sûr que c'est une étude qui est peut-être sous-puissante. Je sais pas si c'est un terme qu'on peut dire. Underpower. Mais bref, c'est quand même l'étude avec le devis le plus fort qu'on a à date sur le remdesivir. C'est sûr que les patients, comme je vous ai dit tantôt, il y a peut-être un petit peu plus d'hypertension, de diabète ou de maladie coronarienne dans le groupe remdesivir, donc ça pourrait jouer en défaveur de la molécule. Et il y a une chose qui est importante aussi, c'est les patients dans cette étude-là, okay, on dit qu'il y en avait 0,4% qui étaient intubés ou sous ECMO, donc c'est des patients malades, mais pas critiques. Donc, ce n'est pas nécessairement nos patients qui sont aux soins intensifs. Bref, ça reste une bonne étude, sous-puissante, qui nous donne quand même un peu d'informations, comme quoi qu'il ne semble pas avoir un signal franc vers un bénéfice important du remdesivir. Ce qui est quand même intéressant, c'est que cette étude qui est bien faite ne semble pas avoir été retenue par la FDA pour baser leur décision sur l'autorisation de mise en marché. Ils se sont plutôt basés sur l'étude du NIH, okay, qui est en pré-publication dans les faits. L'étude n'est pas disponible là, au moment de l'enregistrement qui était le 5 mai. Fait qu'il faudra voir le papier final là, pour bien l'évaluer. C'est quand même curieux. Peut-être que la FDA avait accès au papier complet là, pour pouvoir baser leur décision. Fait que dans l'étude du NIH, c'était encore le temps, l'amélioration clinique, le time to recovery. Dans le papier qu'ils nous disent, il y a 31% des patients du groupe remdesivir qui ont eu un recovery plus rapide, qui serait significatif, mais on est en attente de voir le tout. Le temps médian était 11 jours versus 15 jours, donc on sauve 4 jours. Pour ce qui est de la mortalité, qui est vraiment quelque chose qu'on s'intéresse, il n'y a pas de différence statistiquement significative. Là, on parle de 8% versus 11%. Puis dans le papier préliminaire, ce qui est vraiment intéressant, c'est aucunement statistiquement significatif, mais ils disent que le remdesivir aurait un nombre de jours numériques plus rapide d'amélioration clinique que le placebo. On parle de 18 versus 23 jours avec des symptômes qui duraient de 10 jours au moins. Puis ça, je vous dis pourquoi c'est intéressant, c'est que ce n'était pas pré-spécifié dans le protocole du papier. Puis ça, les liens seront dans les notes de la balado. C'est vraiment intéressant parce que quand tu regardes tous les amendements qui se sont produits dans le protocole de ce papier-là sur Clinical Trials, il y en a vraiment énormément, puis ça change beaucoup. Puis là, on ne parle pas juste d'issue secondaire, mais on parle même de l'issue primaire qui a changé. Ils ont changé l'échelle, comme dans l'étude de Wang, qui ont pris l'échelle de 6, qui est comparable à l'échelle de sur 7, là, que je vous disais qu'ils avaient fusionné deux catégories. Eux, ils ont changé ça pour l'échelle de 3. Donc, les patients qui sont hospitalisés, 5 premières sur l'échelle ont été mis ensemble sur patients hospitalisés. Et après ça, les patients qui étaient non hospitalisés, qui avaient des activités limitées sur oxygène ou non. Va falloir vraiment attendre le papier pour bien analyser ça, mais je reste quand même sceptique sur ce papier-là parce que, bon, c'est sûr qu'il va falloir le voir, là, ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est je trouve ça drôle que la FDA ait utilisé ce papier-là malgré tous les changements qui ont été faits récemment. Fait que les changements, je vous disais, ils ont été faits pendant l'enrôlement des patients. Donc, est-ce qu'il y a eu une intervention où ils se sont rendus compte finalement qu'ils n'y arriveraient pas, fait qu'ils ont décidé de changer pour un issue primaire qui était plus doux, si on pourrait dire? Fait que ça me laisse un peu sur ma faim, si on veut. Au même moment, Gilead a émis un communiqué de presse sur des résultats préliminaires de la phase 3 de l'étude SAMPLE, la phase 3 qui est de vie ouverte, que je vous disais, qui ont évalué 5 jours versus 10 jours, qui disaient que 5 jours, bon, finalement, 5 jours, c'est aussi équivalent à 10 jours pratiquement. Mais quand même, la FDA a autorisé sur les très, très, très malades, donc nos patients aux soins intensifs, 10 jours de traitement, contrairement au patient qui n'est pas malade, dans le sens qu'il n'a pas besoin d'intubation, ce que là, un 5 jours pourrait être suffisant. Fait que, bref, pour une molécule qu'on nous disait vraiment hyper puissante, qui allait diminuer la charge virale, qui allait diminuer le stock and storm, qui allait être, dans le fond, excusez-moi l'anglicisme, un game changer, ces études-là, pour l'instant, ne semblent pas nous le démontrer. Donc, reste à savoir, est-ce que c'est vraiment une molécule miracle ou est-ce qu'il y a une place pour le remdesivir dans le traitement? Peut-être. Certainement, si on a à l'utiliser, il y a une fenêtre thérapeutique, là, donc j'ai l'impression que c'est plate à dire, mais c'est le plus rapidement possible après le début des symptômes, donc en bas de 10 jours facile, pour qu'on ait un certain impact sur la charge virale, qui encore là, même à ça, on n'est pas trop sûr. Donc, est-ce qu'il faudrait se garrocher sur remdesivir basé sur les études et les données qu'on a présentement? Je vous dirais je pense qu'on va se garder une petite gêne puis on va attendre qu'il y ait de plus de données. Parce qu'il faut se rappeler que dans les faits, on a un papier publié qui a démontré une diminution non significative du temps à l'amélioration clinique, qui n'a pas démontré de bénéfice sur la mortalité, qui n'a même pas réussi à démontrer un bénéfice sur la diminution de la charge virale, mais qui au moins avait un taux d'effet secondaire qui était sensiblement le même que le placebo. Il faut se rappeler aussi que c'est une molécule qui est difficile à obtenir au Québec notamment, mais je pense ailleurs dans le monde. Les programmes de compassion ont diminué au profit des études cliniques, ce qui est quand même une bonne chose, mais ce qui fait que la molécule, si on n'est pas dans une étude clinique, est très difficile à obtenir. Je pense que pour le Québec, mais aussi ailleurs dans le monde. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on devrait faire avec le remdesivir? Est-ce qu'on devrait le donner à tout le monde, un peu comme on fait avec l'osemtivir, qui est dans le fond le Tamiflu, pour l'influenza? Ou on devrait se garder une petite gêne? J'aimerais ça vous entendre, puis avoir votre opinion sur le remdesivir. Bref, ça fait le tour du remdesivir. Merci de votre temps, merci de votre écoute. Portez-vous bien, reposez-vous aussi quand vous avez le temps, c'est super important. La santé de nos patients, mais la santé de nos soignants aussi. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien, faites vraiment attention à vous autres. Bye. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.